bientôt à la fin de notre histoire des jeux vidéo, puisqu'on arrive à aujourd'hui avec la période 95-97. C'est la période des nouvelles consoles, à plus de bits, mais aussi d'une grande découverte. Oh, merde, un PC ça sert à jouer. Un peu, mon neveu, ça faisait longtemps que ça pouvait. Et d'ailleurs... Myst, 3 millions d'exemplaires vendus. Le jeu vidéo pour ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo, mais qui ont assez de thunes pour s'acheter un lecteur de CD-ROM en 93. Bon, c'était chiant, mais c'était bien. On s'ennuyait, mais version grand bleu. Belle musique et belles images. L'idée de génie, c'était de l'avoir sorti à cette époque-là, justement. Le combat des consoles japonaises.
Ça y est, bien rangés côte à côte dans les rayons des grands magasins, la Saturn, la PlayStation et la Nintendo 64 sont prêtes pour la grosse bagarre de Noël. Tout ça nous semble très naturel. Pourtant, souvenez-vous, il en aura fallu du temps pour en arriver là. Ça remonte à 1995 avec l'arrivée en France de la Saturn de Sega et de la PlayStation de Sony. Le match tourne vite à l'avantage de la PlayStation. Sony vend 2 fois plus de consoles que son concurrent Sega, car ce sont avant tout les jeux qui font le succès d'une console. Et à part Sega Rally et Virtua Fighter 2, la Saturn manque de jeux marquants. Alors que de son côté, la PlayStation accumule les hits. Quant aux tentatives de Sega pour adapter les grands hits de la PlayStation sur Saturn, elles ne font que souligner la légère infériorité technique de la Saturn. La PlayStation devient donc la console à la mode. Il faut dire que Sony met le paquet sur les campagnes de pub en investissant 4 fois plus d'argent dans la publicité que Sega. Le marché évolue vers un public plus adulte et désormais jouer n'est plus considéré comme un passe-temps honteux pour adolescents attardés. Du coup, on voit apparaître une flopée de petits jeux à la mode comme Cool Borders, Port Challenge ou Parapa de rapper. Pour remonter la pente à l'avenir, Sega fonde ses espoirs sur le Saturn Netlink, une extension qui permettra de connecter la Saturn à Internet pour surfer sur le web et télécharger des démos et des jeux. Mais ça n'est pas pour tout de suite, alors en attendant, le match de Noël se jouera surtout entre la PlayStation et la Nintendo 64 fraîchement débarquée. D'accord, la Nintendo 64 est 2 fois plus puissante que ses concurrentes, mais Nintendo part avec un lourd handicap, celui de s'être bien foutu de notre gueule pendant 2 ans. Mais si, souvenez-vous, fin 95, alors que la Nintendo 64 était déjà sorti depuis belle lurette au Japon, voilà le genre de pub qu'on pouvait voir dans la presse spécialisée à l'approche de Noël. Seulement voilà, c'est pas quelques mois qu'il aura fallu attendre, mais 2 ans de Noël à attendre une console certes impressionnante, mais qui semblait franchement mépriser ses fans européens. Pendant ce temps-là, la PlayStation en a largement profité pour s'implanter. Elle dispose désormais de plus de 300 jeux, alors qu'on n'en compte encore qu'une trentaine sur Nintendo 64. Autre handicap sérieux, le prix exorbitant des jeux Nintendo 64. 450 francs en moyenne, des tarifs presque suicidaires, alors que les jeux PlayStation ou Saturn sont à 350 francs en moyenne et qu'on trouve des jeux d'occasion à partir de 100 francs. Nintendo promet une baisse des prix de ses jeux, mais il faudrait être bien naïf pour imaginer qu'elle intervienne avant Noël. Malgré tout, Super Mario Kart 64 ou Super Mario 64 justifient à eux seuls l'achat de la console. Alors les joueurs n'ont pas fini d'hésiter et le match entre les consoles risque d'être rude. Pas de doute, ça va se bagarrer sec dans la hotte du Père Noël cette année.
Mais la meilleure console, c'est le PC.
Comment le PC, l'ordinateur le plus triste du monde, a-t-il pu devenir la plus fantastique des machines de jeu? Aucun miracle ni tour de magie, l'explication est toute simple. C'est parce qu'au début, le PC, comme l'homme, était faible et débile, et qu'il n'avait qu'une solution, évoluer ou mourir. Heureusement, il avait de fortes capacités d'adaptation. Oui, si le PC est aujourd'hui le roi des joueurs, c'est tout simplement parce qu'on peut en changer tous les éléments, et qu'ainsi il suit ou crée au fur et à mesure l'évolution technique des jeux. Par exemple, on a quitté les atroces couinements du haut-parleur interne grâce à la carte son. Du coup, les jeux se sont réveillés avec une bonne paire de baffles. Et aujourd'hui, pour un grand hit, la stéréo 3D Surround est quasiment obligatoire. Il a fallu aussi améliorer l'affichage. Comment piloter un bon simulateur de vol au-dessus d'un brouillard de pixels? EGA, VGA, SVGA, le PC a franchi toutes les étapes pour parvenir aux superbes paysages actuels. Alors, la plupart des jeux sont passés peu à peu de 2 à 3 dimensions et maintenant, une carte graphique 3D dans un PC, c'est presque la configuration minimale. Évidemment, cette course au rêve est aussi une course à la puissance, pas de problème. Une fois encore, le PC sait s'adapter. Quelques mégas de mémoire en plus, un changement de microprocesseur, et la F1 enclenche le turbo et les décors deviennent toujours plus riches. Enfin, n'oublions pas le plus important, ou presque, le CD-ROM. Sans ce lecteur miraculeux que le PC a tout de suite intégré, jamais les jeux ne se seraient imposés comme un véritable phénomène culturel.
Arrête où je tire !
Car avec cette fabuleuse réserve d'images et de sons, on est passé de la simple animation à la vraie vie, de l'anecdote ludique au virtuel. Et les créateurs ont enfin trouvé là le matériel nécessaire pour libérer leur imagination, pour faire de l'art autant que du jeu. Alors, qui peut maintenant détrôner le PC ? Dès la fin de l'année prochaine, il accueillera le DVD-ROM qui fera ressembler nos CD à des disquettes simple face. Et ces Pentium nouvelle génération géreront la 3D plus vite qu'en temps réel. Alors, impossible d'arrêter ce boîtier vide dont on peut éternellement changer tous les organes. Au point que même les consoles de jeux en sont jalouses. On sait déjà que les prochaines Sony et Sega n'hésiteront pas à copier leur structure sur celle du PC roi.
Plus qu'un jour, consacré au futur. Demain, l'histoire des 25 ans des jeux vidéo se termine avec une boule de cristal. À domani.